Mission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie. La référence du paiement de facture via le mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, l'antenne vous appartient dans 30 minutes, comme tous les vendredis, la Libre Antenne. Vous nous rejoignez pour commenter tous les sujets qui vous ont marqué depuis le début de la semaine dans l'actualité française, africaine, internationale. Aucun sujet n'est tabou, donc rejoignez-nous ici à Paris, appelez-nous 33 9 693 693 70. Vous nous rejoignez également sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité. N'oubliez pas, lorsque vous postez un commentaire, de nous indiquer en message privé évidemment vos coordonnées afin que nous puissions vous recontacter le plus vite possible et que vous puissiez évidemment être parmi nous en direct sur l'antenne de RFI. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction, c'est votre rendez-vous privilégié avec les journalistes, les experts de RFI. Vous avez écouté le journal, vous souhaitez peut-être un complément d'information, eh bien nous sommes là tous les matins de 8h10 à 9h30 heure de Paris, 9h10 heure de Paris, jusqu'à 9h30, on répond à vos questions et on va commencer d'ailleurs avec les sanctions américaines contre la Mauritanie. Vous en parlez ce matin dans nos différentes éditions, après la réaction pour le moins virulente hier du porte-parole du gouvernement mauritanien. Bonjour Alassane.
Oui, bonjour, Gomez.
Vous êtes à Saint-Louis, au Sénégal. Nous vous écoutons.
Oui. Bon, en fait, j'ai appris que les États-Unis ont pris des sanctions contre la Mauritanie. En effet, ils reprochent à la Mauritanie de ne pas faire assez d'efforts dans l'école de l'esclavage et dans les Français. Je vous faisais deux questions. La première question. Quels sont les éléments sur lesquels l'administration américaine s'est fondée pour prendre de telles sanctions?
Alors, le réseau téléphone est particulièrement mauvais à la SAN. On a dû tendre l'oreille pour essayer de comprendre votre question. Vous souhaitiez comprendre sur quels éléments les États-Unis se sont fondés pour prendre ces sanctions, puisque les États-Unis accusent la Mauritanie de travail forcé, d'esclavage. Gaël Lalex, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au service Afrique de RFI. On rappelle que les États-Unis ont décidé d'exclure la Mauritanie de l'AGOA. Alors l'AGOA, c'est ce partenariat commercial qui permet aux produits africains d'avoir un accès privilégié au marché américain grâce à des réductions de taxes douanières. Et évidemment, pour être éligible à ce programme, les pays africains doivent répondre à un certain nombre de critères, notamment des critères concernant les droits de l'homme, la bonne gouvernance, la protection des travailleurs. Et c'est au cours de la réunion annuelle concernant la révision de ces critères que les États-Unis ont décidé donc de suspendre ce pays.
Oui, absolument. C'est en tout cas ce qu'affirme le communiqué du ministère du Commerce extérieur américain. Les États-Unis estiment que la Mauritanie ne fait pas suffisamment d'efforts pour lutter contre le travail forcé et surtout l'esclavage, des pratiques qui n'ont plus leur place au XXIe siècle, a déclaré Curtis Joseph Mahoney, représentant au commerce extérieur des États-Unis. Pour autant, l'administration ne donne pas vraiment plus de détails.
Ouais. La question de l'esclavage est pointée du doigt depuis longtemps en Mauritanie. Qu'est-ce qui a poussé soudainement les États-Unis à réagir?
C'est difficile de répondre exactement à cette question, mais ce que l'on peut dire, c'est que depuis l'année dernière, les militants de la cause anti-esclavagiste ont mis les bouchées doubles pour mobiliser la communauté internationale sur cette question. L'an dernier, par exemple, le militant Biram Dahabeid, fondateur de l'IRA, l'initiative de résurgence du mouvement abolitionniste, a déposé plainte auprès des Nations Unies et de l'Union africaine au sujet de la persistance de l'esclavage en Mauritanie. Depuis lors, d'ailleurs, Biram Dahabeid a été emprisonné à Nouakchott. Et puis, sans doute que les États-Unis ont peu apprécié de voir en septembre dernier une équipe de défenseurs américains des droits de l'homme invitée par l'ONG SOS Esclaves Mauritanie se faire refouler à son arrivée à Nouakchott. L'ambassadeur américain en Mauritanie était alors monté au créneau sur la question de l'esclavage.
Alors Alassane nous demandait si cette exclusion de la Mauritanie de l'AGOA pouvait inciter les autorités mauritaniennes à revoir leur politique en matière de lutte contre l'esclavage. Est-ce que ces sanctions peuvent avoir un impact?
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il s'agit surtout d'une sanction symbolique. Les exportations mauritaniennes aux États-Unis sont loin d'être significatives. L'année dernière, la Mauritanie a importé 80 millions d'euros de marchandises américaines, alors que ses exportations à destination du marché américain représentaient moins d'1,5 million d'euros. Les États-Unis, ici, ne remettent pas en cause leur aide publique au développement. Ils ne parlent pas non plus d'un embargo comme celui qu'ils ont fait subir au Soudan pendant des années. C'est un avantage fiscal qui disparaît sur un marché qui n'est pas crucial pour la Mauritanie. Donc en clair, il en faudra beaucoup plus pour lui tordre le bras. C'est surtout d'un point de vue politique, évidemment, que cette sanction est embarrassante.
Un impact négatif sur l'image de la Mauritanie.
C'est jamais très plaisant d'être pointé du doigt par la première puissance économique mondiale, mais la Mauritanie en a vu d'autres. Hein. Ses relations avec les États-Unis sont loin d'être un long fleuve tranquille. Il lui avait déjà fallu 7 ans pour intégrer l'AGOA. Et puis aujourd'hui, Nouakchott a d'autres alliés puissants. La Mauritanie est notamment devenue un partenaire incontournable des pays européens, notamment de la France, dans la lutte contre le terrorisme au Sahel.
Oui, le gouvernement mauritanien, en tout cas, a vivement réagi hier soir lors d'une conférence de presse. Le porte-parole du gouvernement a nié l'existence de l'esclavage. Nous l'avons vécu par le passé, a-t-il dit, comme beaucoup de pays, y compris les États-Unis d'Amérique, où les stigmates de l'esclavage sont visibles. Et en substance, ce que disait le porte-parole du gouvernement hier soir, c'est que quand on regarde les administrations américaines ou les services, les grandes sociétés financières américaines, il n'y a pas de noirs. Les noirs, a-t-il dit, sont en prison. Donc, dans ce pays-là, les États-Unis, les noirs sont également marginalisés. Voilà le bras de fer entre les États-Unis et la Mauritanie. Vous le souhaitez le commenter, vous nous rejoignez, la Libre Antenne, c'est dans 20 minutes maintenant, 33 9 693 693 70. Merci beaucoup Gaël Lalex, bonne journée, et on remercie évidemment Alassane de Saint-Louis au Sénégal. On va parler football, des questions concernant les déboires de l'AS Monaco. Bonjour Abdoulaye.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs.
Nous vous écoutons.
Juan, l'AS Monaco est éliminé de la Ligue des Champions après avoir perdu 4-0 face à Bruges, enchaînant un 15e match sans victoire. Ouais. Comment expliquer ce manque de performance de l'AS Monaco ?
Bonne question. Frédéric Suto du service des sports de RFI nous rejoint. Bonjour Frédéric.
Bonjour Juan, bonjour Abdoulaye.
Disons-le Frédéric, n'ayons pas peur des mots, c'est une catastrophe pour Monaco. 15 matchs sans victoire, éliminé de la Ligue des Champions. Comment expliquer cette série noire ?
Ben, s'il y avait une seule explication, je pense que du côté de Monaco, on s'activerait pour trouver le remède. C'est assez étonnant hein, ce qui se passe du côté du Rocher de Monaco. Alors quelques chiffres, vous le disiez, une seule victoire depuis le début de la saison. Hein, c'était en championnat la première journée face à Nantes, 3-1. On se disait tiens, bah Monaco est reparti de plus belle. Monaco a perdu ses cadres comme tous les ans, parce que c'est l'une des raisons. Hein, oui. On va le voir, a perdu ses cadres, mais Monaco repart avec ses jeunes, avec Radamel Falcao, le Colombien. Il y a une bonne équipe. Il y a Leonardo Jardim qui est là depuis plusieurs saisons. Il va continuer son travail et tout cela n'a pas tenu. L'édifice s'écroule et c'est vrai que les chiffres, ils font peur. Monaco ne gagne plus en championnat avant-dernier. Une victoire, 4 matchs nuls en 15 matchs et en Ligue des Champions. C'était en début de semaine, mardi, ce 4-0 à domicile en 191 matchs de Coupe d'Europe. Jamais Monaco n'avait subi une telle défaite en Coupe d'Europe.
Mais quel est le problème ?
Ben le problème, c'est le système qui a si bien marché depuis 3-4 ans maintenant et qui consistait avec les investisseurs russes, hein, parce que Monaco était en deuxième division, il a fallu remonter en 2013, ils sont arrivés, et Dmitri Ribolovlev a pris le club en main, ce milliardaire russe qui aujourd'hui est en garde à vue hein, aussi. Hein, il y a beaucoup d'affaires parce qu'il a des business à côté. Mmh. Bon, et tout cela finalement se mêle un petit peu. Le principe, c'était on a quelques joueurs cadres et on a surtout des pépites, des jeunes, les meilleurs jeunes européens qu'on achète moins de 10 millions d'euros et on les couve avec Leonardo Jardim qui a réussi cela à merveille, l'entraîneur, et en un an, deux ans, ils éclatent sur la scène européenne, notamment en Ligue des Champions, quand Monaco est allé jusqu'en demi-finale en 2017, et là, les plus grands clubs nous les achètent, que ce soit Chelsea, que ce soit l'Atlético de Madrid, ils nous achètent nos meilleurs joueurs, on remplit les caisses, on fait des plus-values extraordinaires, ça nous permet de racheter d'autres jeunes et on recommence ainsi de suite le processus. Ouais. Sauf que là, à force de perdre tous leurs meilleurs joueurs, on va en citer quelques-uns, hein. Monaco a été champion de France en 2017 devant le Paris Saint-Germain. Il y avait là Thomas Lemar, il y avait Thiemwe Bakayoko, il y avait Bernardo Silva, il y avait Benjamin Mendy, il y avait Kylian Mbappé parti au Paris Saint-Germain. Ils sont tous partis, donc à force comme ça d'amoindrir l'équipe, les petits jeunes, ils se retrouvent tout seuls et le projet, il fait pchit.
Hein. Et le problème, c'est que beaucoup d'entre eux sont blessés. Enfin, je crois que l'infirmerie est pleine, elle est remplie en ce moment.
Oui, parce que les quelques cadres qui restaient, les Kamiljic, les Daniel Subašić, le gardien croate, on l'a vu à la Coupe du Monde, il a terminé sur une jambe, merci pour les Français. André Arradji, ils ne sont plus tout jeunes et ils ne suffisent plus pour tenir la baraque.
Alors Abdoulaye, il y a une autre question à vous poser, Frédéric Souteau.
Oui, Juan. En plus de l'élimination de l'AS Monaco en Ligue des Champions, l'AS Monaco est mal classé en Ligue 1. Est-ce que l'entraîneur Thierry Henry est en danger?
Ah, Thierry Henry, c'est vrai que depuis qu'il est là, le bilan n'est pas à la hauteur. Hein. Il a entraîné 5 matchs, 3 défaites de nul.
On n'en a pas encore parlé, mais effectivement, à un moment donné, Leonardo Jardim, il est arrivé lui aussi à bout de ce qu'il pouvait faire. On a appelé Thierry Henry en se disant, ben là voilà, la bonne idée. Thierry Henry, c'est comme Kylian Mbappé, il a commencé à l'AS Monaco, il avait 18-19 ans, il marquait but sur but, c'est comme ça qu'il a été appelé en équipe de France. On va appeler Thierry Henry, c'est un champion du monde, champion d'Europe, il a fait le bonheur de l'équipe de France, lui qui était du côté des Diables Rouges de la Belgique. 5 matchs, il ne trouve pas, lui non plus.
Il n'a pas la solution.
Clé, ouais. Il n'a pas la solution, donc oui, au bout d'un moment, il sera tout Thierry Henry qu'il est, sachant qu'il n'a pas entraîné ailleurs avant de venir, hein, il s'expose aussi Thierry Henry. Il va devoir faire ses preuves, 5 matchs, aucune victoire, et si ça continue, Monaco est avant-dernier, il va bien falloir gagner quelques matchs, il faudra un électrochoc. On pensait vraiment que là, c'était le ressort qui allait permettre, parce que quand vous regardez l'effectif de l'AS Monaco, des bons joueurs, il y en a.
Bien sûr.
Donc, le ressort est cassé, ça ne repart pas.
Soyez optimiste, peut-être un électrochoc dimanche face au PSG.
Ça oui, Monaco reçoit le Paris Saint-Germain, mais parfois c'est le plus facile. Oui. Ces grands matchs, le Paris Saint-Germain qui a la tête à la Ligue des Champions, faudra battre Liverpool, ce serait la meilleure façon de repartir du bon pied, peut-être avec quelques spectateurs au Stade Louis II, parce qu'il y a ça aussi, hein, on joue devant des banquettes vides.
Ah oui, mais il y a de quoi boycotter les banquettes du stade à Monaco.
Donc allez Monaco face au PSG.
Abdoulaye, hein. A-t-on répondu à vos questions?
Oui, Juan, merci à vous.
Et merci surtout à Frédéric Souteau du service des sports de RFI. 9h22 à Paris, nous avons demandé à Anne Souhaitemont du service politique de RFI d'être avec nous ce matin. Bonjour Anne.
Bonjour.
Nous avons reçu des questions sur la polémique après les propos du président Macron sur Philippe Pétain, le maréchal Pétain qu'il a qualifié.
Alors on n'a plus le droit d'appeler maréchal.
Oui, c'est pour
fait,
ça que je me suis permis de dire Philippe Pétain et ensuite maréchal pour situer auprès de nos auditeurs. On n'a plus le droit de le dire effectivement. En tout cas, Philippe Pétain qualifié par le président Macron de grand soldat de la Première Guerre mondiale. Bonjour Miguel.
Bonjour Juan Gomez. Bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Vous nous appelez de Bangui en Centrafrique, nous vous écoutons.
Merci Monsieur Juan Gomez. En effet, dans le cadre des événements commémoratifs de l'armistice qui a mis un terme à la Première Guerre mondiale, le président français Emmanuel Macron a déclaré qu'il était légitime de pouvoir rendre hommage à M. Philippe Pétain. Or, nous savons tous le rôle qu'a joué M. Pétain pendant la collaboration lors de l'occupation de la France par les nazis. Comment comprendre les déclarations du président de la République française?
Quelles sont les raisons qui ont poussé Emmanuel Macron à rendre hommage à Philippe Pétain, Anne Souhaitemont?
Alors, c'est effectivement toute la question, Juan. Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il déclaré, vous l'avez cité, on peut avoir été un grand soldat à la Première Guerre mondiale et avoir conduit à des choix funestes durant la deuxième, et ainsi sembler commencer de réhabiliter Philippe Pétain, qui est pourtant frappé d'indignité nationale et qui a été condamné à mort. Il faut le rappeler, pourquoi l'État avait-il aussi prévu, dans le programme initial, de rendre hommage aux 8 généraux, dont Philippe Pétain, contrairement à ce qu'ont déclaré ces derniers jours plusieurs ministres du gouvernement? Eh bien, honnêtement, Juan et Miguel, c'est très difficile de l'expliquer, et c'est vraiment la question que tout le microcosme politique, y compris les historiens d'ailleurs, se pose en ce moment. D'autant que manifestement, l'exécutif avait bien conscience que la question était très délicate, inquiet de voir un hommage aux maréchaux de la Grande Guerre inscrit au programme des commémorations. L'Élysée avait par exemple demandé à la ministre des Armées, Florence Parly, de clarifier la nature de la cérémonie. Elle avait alors, c'était chez nos confrères de BFM TV, déclaré « Nous célébrons un grand anniversaire, mais l'état-major n'a jamais imaginé rendre hommage au maréchal Pétain. L'état-major a souhaité rendre hommage à des maréchaux qui sont aux Invalides, mais la tombe du maréchal Pétain n'y est pas. Alors, Emmanuel Macron a-t-il fait une erreur d'appréciation? Est-ce qu'il a fait une erreur de communication? S'est-il tout simplement trompé dans les mots qu'il a choisis quand il a répondu? C'était à la volée, hein, à des journalistes, c'était de l'improvisation. Ou est-ce qu'il a, comme semble se le demander certains, voulu tendre une perche à certains électeurs d'extrême droite? Eh bien, c'est donc difficile de répondre. Mais les derniers propos d'Emmanuel Macron, qui datent d'hier, il a fini par expliquer clairement qu'aucun hommage ne serait rendu personnellement à Philippe Pétain, et il a d'ailleurs dénoncé aussi la boîte à folie des polémiques inutiles, semble plutôt plaider pour la première ou la deuxième explication, l'erreur d'appréciation ou de communication.
Merci beaucoup Anne Souhaitemont d'être venue nous éclairer. Là aussi, si vous souhaitez commenter cette énième polémique, n'hésitez pas, rejoignez-nous 33 9 693 693 70. Bonjour Maki.
Oui Roanne, bonjour et bonjour à tous.
Nous vous écoutons, quelles sont vos questions ?
Merci Roanne, merci. Mais avant, permettez-moi très rapidement d'adresser un petit mot d'encouragement à votre équipe au Standard qui fait un véritable travail.
Et vous avez raison de les saluer, je les salue évidemment. Et sans eux, vous savez, on ne pourrait pas faire cette émission au quotidien, nous ne pourrions pas être en direct. Donc merci aux techniciens, aux assistants, mais aussi à la documentation de RFI qui mettent tous les jours pour préparer cette émission. On vous écoute.
Merci Juan. Alors, récemment, un juge d'instruction français a lancé des mandats d'arrêt internationaux contre trois hauts responsables du régime syrien qui sont soupçonnés d'être impliqués dans le meurtre de deux franco-syriens disparus à Damas en 2013. Mmh. Alors Juan, moi j'aimerais savoir comment expliquer que la justice française ait attendu 5 ans pour lancer ces mandats d'arrêt internationaux.
Ah, bonne question. C'est vrai que le temps semble très très long. Ces faits remontent à novembre 2013. Nous sommes en novembre 2018. 5 ans se sont passés avant que la justice française ne lance ses 3 mandats d'arrêt qui visent tout de même le chef du bureau de la sécurité nationale qui est un proche de Bachar el-Assad, le chef des renseignements de l'armée de l'air, et le troisième était le responsable de ce centre où ont été détenus puis torturés ces deux franco-syriens. Bonjour Hasni Abidi.
Bonjour.
Politologue, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève. Ces faits-là remontent effectivement à il y a 5 ans. Comment se fait-il que la France a attendu si longtemps alors qu'il s'agit tout de même de ressortissants qui avaient, puisqu'ils sont morts, la nationalité française?
Vous savez que le temps de la justice n'est pas celui de la politique. Il a besoin de beaucoup de temps, beaucoup de recoupements, beaucoup de recherches et beaucoup de faits étayants. Il se trouve que la première enquête préliminaire a été ouverte déjà en 2015. L'information judiciaire est arrivée en 2016, mais il fallait absolument arriver à cette conclusion grâce à ce photographe de l'armée syrienne, donc au nom de César. Et là, il y avait un travail immense, parce que je vous rappelle qu'il y a 55 000 photos. En même temps, il y avait une disparition de deux Français et Syriens. Donc là, il y avait évidemment une plainte. Et c'est au nom de la compétence universelle que la justice française a commencé par cette information judiciaire, donc l'ouverture de l'information judiciaire, qui a impliqué un mandat d'arrêt pour des chefs d'implication qui sont très importants. Complicité d'actes de torture, puisqu'il s'agissait de torture, mais aussi complicité de crimes contre l'humanité et crime de guerre, et délit de guerre, qui est très important pour ce dossier. Mais attention, les plaintes sont immenses. Je crois que selon les services français, la Syrie, je crois que c'est le deuxième dossier après le Rwanda en termes donc de demandes d'information judiciaire depuis le déclenchement des hostilités en Syrie.
Ouais, c'est la première fois depuis le début de la guerre en Syrie que la France délivre des mandats d'arrêt internationaux à l'encontre de responsables des services de renseignement syriens. Est-ce que vous pensez que cette enquête, ces mandats d'arrêt peuvent avoir une répercussion auprès des autres familles de disparus syriens?
Oui, alors les deux franco-syriens qui ont donné un fondement important à cette information, les deux franco-syriens ont été évidemment arrêtés, je crois que c'était à la fin de 2013, en novembre 2013, par des officiers de l'armée syrienne. Et beaucoup de familles connaissent le même sort, et c'est très important à ce que ces soit des familles ou des civils puissent justement sortir de l'anonymat. Donc cette information, elle est de nature à encourager toutes les victimes à dénoncer les abus, d'autant plus que ceux qui sont restés en Syrie ont des informations très importantes. Le dernier élément, c'est qu'aujourd'hui, il y a une traque, une véritable traque puisqu'il y a aussi des informations concordantes sur des membres du régime impliqués dans des opérations de torture en Syrie, qui se trouvent sur le territoire européen. Et ça aussi, c'est important au niveau de la justice. On ne parle pas d'une sortie de crise, mais surtout la justice et la fin de l'impunité.
À suivre donc. Merci à Asni Abidi d'avoir pris le temps ce matin pour répondre à Maki, qui nous appelait de Guinée. Je rappelle votre dernier ouvrage, Moyen-Orient, le temps des incertitudes, publié aux éditions Éric Bonnier.